Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Lundi 12 janvier 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllabe 88.4 FM et DAB+, ça va l'équipe ?
Très bien,
ça va,
très
se passe bien. Vous qui êtes les petits poussins de cette radio finalement, vous aimez bien les oiseaux ?
Oui, oui, beaucoup.
C'est assez mignon.
Cool. Vous savez compter ?
Ouais.
A priori, je demande. Hein, sachez donc que vous pouvez faire quelque chose pour les volatiles dont certaines espèces disparaissent de plus en plus ces dernières années. C'est simple, il faut juste savoir compter. C'est l'association Bretagne Vivante qui invite la population à participer à cette opération de comptage des oiseaux. Son but, sensibiliser le public, mais aussi collecter le maximum de données pour suivre l'évolution des populations d'oiseaux dans notre région, mais aussi partout en France. Le décompte aura lieu les 24 et 25 janvier prochains. Votre mission donc, si vous l'acceptez, observez tous les oiseaux présents pendant une heure et notez vos observations selon le protocole consultable sur www.bretagne-vivante.org. Les résultats peuvent être transmis sur ce site ou par voie postale. Alors, à vos perchoirs ou pas ?
À nos perchoirs, tout de suite.
C'est parti, mais avant, le flash gazouillé par l'Afghan.
Un week-end de répression en Iran, depuis 14 jours dans tout le pays, la population manifeste contre le pouvoir, contre la vie chère et contre la dictature, malgré l'interdiction formelle de descendre dans la rue. Les autorités de la République islamique parlent désormais de guerre, les ONG évoquent un massacre. Roman fait le point sur la situation.
Presque plus aucune information ne sort du pays. Depuis jeudi, le réseau et Internet sont coupés en Iran, seules quelques vidéos circulent. On y voit des rues noires de monde, des hôpitaux débordés, des corps enveloppés dans des sacs noirs. Des médecins témoignent auprès de la BBC, la plupart des victimes ont une vingtaine d'années, certaines tuées d'une balle dans la tête ou au cœur. À Téhéran, faute de place dans les morgues, des corps seraient entassés dans des salles de prière. Selon des chiffres communiqués aujourd'hui par l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, au moins 192 manifestants et manifestantes ont été tués, un chiffre encore sous-estimé. L'ONG parle d'un massacre et d'un crime majeur contre le peuple iranien. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré vendredi que son pays ne reculera pas face à la vague de contestation. Il qualifie les protestataires de saboteurs et de vandales.
Malgré la répression, les manifestations se poursuivent et se reconduisent pour renverser la République islamique. Aujourd'hui, le pouvoir iranien a évoqué un combat contre des terroristes, c'est bien ça ?
Oui, devant des contestataires rassemblés à Téhéran en soutien au pouvoir, Mohamed Bagheri Ghalibaf, le président du Parlement iranien, a qualifié la réponse des autorités de guerre contre des terroristes. Selon lui, l'Iran est engagé sur quatre fronts : une guerre économique, psychologique, une guerre militaire contre les États-Unis et Israël, et désormais une guerre intérieure contre ce qu'il appelle des terroristes.
Une guerre militaire contre les États-Unis ?
Oui, en parallèle des manifestations visant le régime des Mollahs, iraniens et américains échangent des menaces. Donald Trump évoque une possible opération militaire contre Téhéran. Mohamed Bagheri Ghalibaf le promet, l'armée iranienne infligerait à Donald Trump une leçon inoubliable en cas d'attaque américaine. De son côté, le président américain a affirmé hier soir que l'Iran voulait négocier. Selon lui, une réunion était en préparation avec les dirigeants de la République islamique.
Concrètement, est-ce que le régime des Mollahs peut tomber ?
C'est la grande question. À court terme, le régime des Mollahs tient encore. Il contrôle l'armée, la police et l'appareil sécuritaire et il n'hésite pas à réprimer très durement. Et d'un autre côté, le mouvement marque une rupture. Pour la première fois, une partie importante de la population ne demande plus de réformes, mais la chute du régime. La seule véritable figure d'opposition tentant de s'imposer, Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran. En exil aux États-Unis depuis 45 ans, il appelle depuis des années au soulèvement contre le régime des Mollahs. Ce matin encore, il a appelé les autorités iraniennes à rejoindre le peuple. Toutefois, il n'a aucune structure politique à l'intérieur du pays et il ne fédère pas. Une grande partie des minorités, représentant près de la moitié de la population, ne se reconnaissent pas en lui. ses prises de position à l'étranger, notamment ses liens affichés avec le couple Netanyahou ou l'extrême droite américaine divise. Le problème, c'est qu'à part lui, il n'y a personne, ni à l'intérieur où la diaspora est éclatée, ni à l'intérieur où l'opposition a été méthodiquement éradiquée.
Sur la scène internationale, les réactions restent prudentes. La Chine, alliée stratégique de Téhéran, soutient le régime et appelle au respect de la souveraineté du pays sans condamner la répression. L'Allemagne, elle, appelle au respect des droits humains. Le chancelier allemand Friedrich Merz a fermement condamné la violence exercée par les dirigeants iraniens contre leur propre peuple. Les ambassadeurs français, allemands, britanniques et italiens viennent d'être convoqués par les autorités iraniennes. Téhéran reproche le soutien exprimé de ces pays aux manifestants iraniens. Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk provoque un malaise en Asie du Sud-Est. Depuis le 25 décembre, l'IA du réseau social X permet de générer des deepfakes. Cette pratique consiste à dénuder des personnes virtuellement à partir de photos réelles. Sans nouveauté, les femmes et les enfants en sont les premières victimes. Samedi, l'Indonésie a donc annoncé la suspension de Grok sur son territoire, une décision suivie par la Malaisie depuis hier. En réponse, Elon Musk a limité ses fonctionnalités déviantes aux abonnements payants, une limitation premium que le Royaume-Uni juge insuffisante et insultante pour les victimes de VSS suite à une enquête lancée par Londres sur le scandale de Grok. La politique et les valeurs humaines mises à l'honneur aux Golden Globes 2026. Hier s'est tenue la 83e édition des Golden Globes. Triplement récompensé, c'est le long métrage Une bataille après l'autre qui a le mieux saisi le jury. Un film de Paul Thomas Anderson mettant en scène la menace du suprémacisme blanc sur l'activisme de gauche. Teyana Taylor, qui a remporté le trophée de seconde meilleure actrice, a célébré sa victoire en affirmant « À mes sœurs de couleur et aux petites filles de couleur qui regardent ce soir, notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller ». En parallèle, l'humoriste Nikki Glaser, maîtresse de la cérémonie, a profité de l'occasion pour critiquer la gestion du ministère de la Justice quant au dossier Epstein. Combien de cartes reste-t-il dans la manche de Sébastien Lecornu ? Vendredi, le Premier ministre a joué son ultime coup de poker en menaçant de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de censure. Une réponse aux deux motions de censure déposées par LFI et le RN suite au vote du Parlement européen en faveur du traité du Mercosur. Selon l'AFP, le chef du gouvernement aurait alors demandé à son ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, d'anticiper de potentielles élections législatives en même temps que les municipales. Un coup de bluff selon le Rassemblement National et la France Insoumise, dont les motions devraient être débattues mardi et mercredi. Marine Le Pen va-t-elle écrire le second tome du journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy ? Accusé de détournement de fonds dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, l'ancienne présidente du parti sera jugée dès demain. Un procès en appel alors que Marine Le Pen a été condamnée en 2025 à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. Un appel risqué puisqu'une nouvelle condamnation pourrait faire monter sa peine à 10 ans de prison. Alors que 12 condamnés ont renoncé au procès en appel, Marine Le Pen comparaîtra avec 11 autres figures du RN. La décision, elle, n'est pas attendue avant cet été. C'est un événement qui secoue la France depuis une semaine, la grève des médecins. Samedi, près de 20 000 médecins se sont mobilisés dans les rues de Paris. Leur objectif, protester contre l'empilement d'injonctions, d'objectifs administratifs et de dispositifs de contrôle oppressifs au détriment du temps médical et de la qualité des soins, selon le premier syndicat de médecins généralistes français, MG France. En parallèle de cette grève, le CHU de Rennes a dû annoncer le déclenchement de son plan blanc. Au même moment, les patientes et patients en manque de médecins s'entassent aux urgences. Un reportage de Lafken Zepeda. Au CHU de Rennes, les passages d'ambulances s'enchaînent, bouchonnant par moments à l'entrée des urgences. Devant le grand bâtiment, Jeanne profite d'une pause. Face à la situation sous tension du CHU, peu de personnel accepte de prendre la parole. Jeanne est un nom d'emprunt sous couvert d'anonymat.
Je suis secrétaire médicale en imagerie.
Pour Jeanne, la grève des médecins généralistes n'est pas à l'origine d'une surcharge des services hospitaliers.
Ça fait bien un mois ou deux mois, depuis début décembre, où on a beaucoup d'activités, mais il y a toujours beaucoup d'activités de toute façon. Ça fait plusieurs années où c'est compliqué, donc la grève, on ne voit pas trop de différence pour l'instant.
Gwendael, visiteur, remarque un manque d'équipement au CHU, mais ne semble pas lier cela aux grèves.
Dans le bloc où est mon père, je sais que tous les lits sont pris. Et là, il est en réanimation. Et on attend les résultats, mais rien à voir avec la grève ou quoi que ce soit comme ça.
Dans son communiqué du 6 janvier, le CHU de Rennes ne partage pas ses constats, accusant en partie la grève des médecins. Il décrit une situation de très forte tension affectant le SAMU et le service d'accueil des urgences adultes. Résultat, le déclenchement de son plan blanc.
Le nombre d'appels au centre 15 a fortement augmenté ces derniers jours. Le service d'accueil des urgences enregistre une activité extrêmement importante sous le double effet du pic épidémique, faute d'alternatives toujours possibles en cabinet médical de ville.
Des cabinets fermés et des professionnels à cran, c'est le cas de Marilyn, médecin généraliste à Mordel.
Alors, gréviste dans le cœur, et je serai à la manifestation samedi 10 à Paris.
Comme beaucoup, Marilyn suit le premier syndicat de généralistes français, MG France. Budget insuffisant et mépris du dialogue social, nombreuses sont leurs critiques et revendications. Pour elles et eux, la médecine manque d'abord cruellement de personnel au profit d'une politique business de la santé.
On avait une remplaçante qui était aussi interne chez nous, qui était prête à s'installer et à qui on a proposé un poste sur une plateforme de téléconsultation. Et effectivement, pour elle, c'était plus simple et plus lucratif de travailler pour les plateformes que de s'installer en médecine générale. Alors que c'est un métier passionnant et très agréable quand on arrive à l'organiser de façon convenable.
Et la mobilisation ne semble pas prête de s'arrêter. Hier, 2500 médecins libéraux ont annoncé leur exil symbolique vers Bruxelles, un chemin que beaucoup de médecins français empruntent. Et Rennes se mobilise aussi pour la santé de son eau. Samedi, près de 3000 personnes ont défilé dans les rues rennaises pour défendre le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou SAGE. Le but de ce nouveau schéma, porté par 72 personnes, dont 39 élus locaux, limiter les herbicides à proximité des captages d'eau potable. Une initiative largement contestée par les syndicats agricoles productivistes, comme la FNSEA et la Coordination Rurale, qui ont bloqué le projet en décembre dernier. Ce week-end, les Rennaises et Rennais ont donc scandé leur désir de défendre une eau potable et d'avenir avec le soutien sur place de la Confédération Paysanne. Désormais, agriculteurs, agricultrices, syndiqués et victimes de pesticides attendent la signature du SAGE par le préfet de Bretagne, Franck Robin. Rennes défend les sols vivants, mais vous pouvez aussi les visiter. Dimanche, l'écomusée de la Bintinet vous invite à plonger au cœur de la vie des sols. Une exploration artistique et participative avec les associations Wild Bretagne, le fanzine Cuicui, l'artiste sentimental Foul ou Inès Cassignol et la librairie de quartier L'Établi des Mots. Au programme, broderie géante, fresque des sols vivants, contes et lectures. L'événement est gratuit et facile d'accès. Pour vous y rendre, c'est pas compliqué, l'écomusée se trouve à 15 minutes à pied de la station du Triangle, alors rendez-vous dimanche 18 janvier de 14h à 18h à l'écomusée de la Bintinet.
Merci pour ton journal, Lafken, on te retrouve juste après l'interview pour une chronique.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Qui reçois-tu ce soir, Estelle ?
Alors, image forte, regard engagé et récit du réel, depuis 2017, Report Image valorise le travail essentiel des photographes de la presse. Une exposition gratuite et itinérante portée par le Club de la presse de Bretagne qui revient cette année pour une 6e édition. Et on en parle tout de suite avec notre invitée Florence Beauvois, emmitouflée dans un foulard Bordeaux, membre bénévole, du conseil d'administration du Club de la presse de Bretagne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez nous parler de ce qu'est Report Image et de l'esprit de cet événement ?
Oui, alors je vais quand même commencer par parler du Club de la presse de Bretagne.
Si vous voulez. Hein.
Puisque c'est quand même la maison des journalistes et des professionnels de l'information et de la communication. Et il y a plusieurs missions, et notamment la défense du métier de... des professionnels de l'information. Et l'organisation d'événements pour les adhérents, mais aussi pour le grand public. Et évidemment, pour le grand public, l'idée a émergé 2016-2017 de mettre en avant le métier de photoreporter, qui est un métier souvent méconnu, très, très difficile, hein, c'est du travail au long cours, et très méconnu du grand public. Donc voilà, Report Image, c'est une exposition itinérante, gratuite, donc ça veut dire que c'est dans les lieux de passage, hein, c'est véritablement le cahier des charges, c'est ça, pour qu'un maximum de personnes qui ne s'intéressent pas forcément au photoreportage s'y intéresse de fait, puisque sera amené à avoir une photo, deux photos, voilà. Donc Report Image, c'est avant tout ça, c'est l'exposition dans des lieux à fort passage de photoreportage.
Et pourquoi c'est important pour le Club de la Presse de mettre en avant le travail des photoreporters ?
D'une manière générale, le Club de la Presse valorise et soutient la liberté de la presse et le métier de journaliste, quel qu'il soit, pigiste, photoreporter, journaliste installé. Il y a le bureau des pigistes, par exemple, à côté de l'hôtel de Courcy, dans les locaux du Club de la Presse. Et le photoreportage, c'est important parce que, alors, encore plus aujourd'hui qu'hier, avec l'information qui va vite, l'IA, mais aussi, j'ai envie de dire, les photos de tout à chacun. On voit des émissions qui sont faites à partir de photos faites par vous et moi et sur notre smartphone. Donc, on revient à un travail de long cours. Il y avait une expression à mon époque, je suis un peu plus âgée que vous, le poids des mots, le choc des photos. Voilà, c'était la baseline de Paris Match, mais aussi de beaucoup d'agences de photos. Et derrière, on garde le cliché dans Report Image, mais derrière, c'est tout le travail, finalement, sur le terrain. Au long cours, généralement, on suit en fonction du sujet. C'est pas on vient pour un reportage, clic-clac, et on repart. C'est vraiment un travail de fond qui est essentiel aujourd'hui. Et donc, du coup, aujourd'hui, en 2026, encore plus qu'en 2017, le Club de la Presse doit soutenir ces photographes qui sont aussi souvent mal payés. C'est une profession précaire, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, les médias font de plus en plus appel à l'IA pour les images. Donc, le métier de photographe de presse est compliqué et va le devenir, je pense, de plus en plus et de plus en plus précaire. Mais le métier de photoreporter, encore plus.
Là, comme vous le dites très bien, avec... l'arrivée de l'IA pour les images et aussi la massification de l'information. Qu'apporte un événement comme Report Image pour comprendre l'actualité, mais aussi pour mettre un point d'honneur sur la création d'images et non pas avoir tout le temps recours à de l'IA?
Déjà, le fait de valoriser. Alors, pour Report Image, ce sont des reportages qui ont déjà été publiés dans les médias. D'accord. Donc, c'est une seconde utilisation finalement d'un reportage existant sur des thématiques diverses. Par exemple, il y a deux ans, 2024, on avait les Reapers donc, à Dinan, mais aussi un reportage sur la stérilisation forcée des femmes au Groenland dans les années 70, où les femmes en Afghanistan qui n'ont aujourd'hui même plus le droit de parler. Voilà. Donc, des sujets très vastes qui montrent aussi la diversité des sujets. Moi, j'ai bien aimé le grand écart entre les Reapers, donc un focus sur un métier du quotidien, mais finalement invisibilisé aussi, et puis des scandales d'État sur les femmes, par exemple la stérilisation forcée des femmes au Groenland. Donc déjà, c'est porté à la connaissance du grand public la diversité des sujets qui peuvent être traités, et puis à chaque fois, huit clichés sont exposés. Donc ça montre aussi comment on peut raconter une histoire, le récit d'un fait d'actualité, à travers l'image. Je crois que j'ai perdu le fil de votre question, mais c'est essentiel aujourd'hui. Et puis, souvent, il y a de la médiation aussi qui est faite à travers ces expositions, rencontres avec les photoreporters. Il y a des podcasts ou des interviews qui sont faites justement sur les coulisses aussi du reportage, qui sont mis en ligne sur YouTube. On peut les retrouver. C'est aussi la possibilité d'aller plus loin, finalement, sur l'explication de la construction d'un reportage et d'un sujet.
Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette sixième édition,
oui,
du coup.
Qui est particulière, en plus.
En plus. Quelle est la thématique de cette sixième édition ?
Alors, d'habitude, il n'y a pas de thématique. D'habitude, il faut soit être un photographe breton, soit un photographe breton ou non, qui traite de la Bretagne. Là, on a eu la chance de pouvoir lancer une sixième édition en partenariat avec EDF, à l'occasion des 60 ans du barrage de l'usine marémotrice de la Rance. Et du coup, l'exposition, la sixième édition, sera exposée sur le barrage de la Rance, partie grand public, pas dans les zones fermées. Et du coup, naturellement, est venue la thématique de l'eau, mais sous toutes ses composantes, culturelles, environnementales, économiques. Donc, c'est la Bretagne. On est quand même, il y a 1700 km de côte, je crois, à peu près. On s'est dit que c'était un sujet, en tout cas une thématique judicieuse pour cette sixième édition, au vu du troisième lieu d'exposition, puisque je le rappelle, Report Image, c'est au Atelier des Capucins à Brest, dans le métro rennais. Et là, on aura un troisième lieu d'exposition de passage entre Dinard et Saint-Malo sur l'usine marémotrice.
Donc oui, avec tous ces lieux, on peut voir que c'est une exposition itinérante. Et donc, pourquoi avoir fait ce choix-là d'exposition ?
Ces lieux d'exposition,
oui, ces lieux et le fait
c'est l'opportunité aussi. Hein, nous, au Club de la Presse, on est aussi une bande de bénévoles. Donc, c'est vrai que les personnes qui viennent nous voir, là, le métro, ça a été historique, mais c'est vrai que ça a été construit avec Rennes Métropole et Keolis, hein, de dire on vous accueille. Donc, au début, c'était dans plusieurs métros, stations de métro. Il y avait Villejean, d'ailleurs. Et puis, quand la ligne B est arrivée, l'idée était de pouvoir exposer dans une des stations un petit peu. Comme un hub qui était la station Sainte-Anne, nouvelle station. Donc ça, c'est des choix, je dirais, peut-être de communicants par rapport à l'inauguration de cette nouvelle ligne par Keolis. Le Club de la Presse, même si le siège est basé à Rennes, on est breton. On doit aussi s'intéresser aux quatre départements bretons. Et l'idée d'exposer aux Capucins, aux ateliers des Capucins, ça permettait aussi de se reconnecter avec Brest, avec les Finistériens. Et puis les Capucins, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même un magnifique lieu. Donc de se dire que 64 clichés, quoi, 8 photoreportages, de 8 photos de 8 photoreporters, pardon, donc 64 tirages exposés aux Capucins, c'est une chance incroyable.
Et elle s'adresse à qui en particulier cette exposition ?
À tous.
À tout le monde.
Vraiment à tout le monde. Des jeunes aux moins jeunes, des gens qui lisent les médias à ceux qui ne lisent pas les médias. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus éloigné des médias traditionnels. Hein. Et si on peut faire revenir, les jeunes à la lecture ou au visionnage de médias plus traditionnels par le biais du photoreportage, c'est vrai que c'est important. Le Club de la Presse fait beaucoup d'éducation aux médias. Alors évidemment dans les écoles, je crois que c'est à peu près 273 heures en 2024 qu'il y a eu quelques baisses de subventions liées à l'éducation aux médias qui nous ont directement impactés. Mais ça fait partie aussi des missions et des axes prioritaires du Club de la Presse, l'éducation aux médias. Et avec Report Image, on a quand même un beau support en tous les cas pour pouvoir expliquer ce qu'est l'information et comment on construit finalement un sujet.
Et du coup, pour Report Image, il y a une sélection des photographes qui a débuté le 7 janvier.
Alors, la sélection n'a pas débuté. L'appel à candidature a commencé la semaine dernière. On invite tous les photographes qui, notamment, ont des sujets sur la thématique de l'eau, mais vraiment dans toutes ses composantes, vraiment très larges, et qui ont été publiés sur le web ou en print, peu importe, à candidater, à envoyer un dossier de candidature sur le site du Club de la Presse. On a toutes les informations et à proposer au moins 8 tirages, 8 clichés issus d'un reportage qui a été publié. Voilà.
Et quel type de regard ou de proposition vous attendez de ces photographes ?
Alors, c'est assez vaste. Hein. Le jury, il est composé de professionnels de la photographie, une représentante du Festival de la Gacilie, Jean-Christophe Godet du Festival Glaz et du Festival de la photographie de Guernesey. On a la chance d'accueillir cette année aussi le service photo Icono de Ouest-France et le responsable du service photo de l'AFP dans le Grand Ouest. Donc, c'est vraiment... on aura en plus d'une des coprésidentes du Club de la Presse. Donc, c'est un regard de professionnel. Beaucoup de choses, en fait, finalement, sont regardées. L'intérêt du sujet, comment le traitement photographique a pu servir aussi le sujet, l'émotion et l'information que ça peut donner. C'est-à-dire que 8 tirages, c'est le minimum, finalement, aussi pour juger de l'histoire qui peut être racontée à travers la photo. C'est souvent très difficile et il y a une grille d'évaluation, évidemment. C'est anonymisé et c'est aussi un mot difficile à dire d'une seule fois, celui-ci. On en parlait tout à l'heure en antenne. Et on invite aussi les femmes à postuler, à candidater. Il y a toujours, dans tous les concours, très peu de femmes et on aimerait vraiment qu'il y ait arrivé à la parité, mais l'anonymisation, c'est très difficile à dire ce mot, nous permet pas d'avoir un quota ou autre. On n'a pas forcément envie d'un quota, mais on incite fortement les femmes photographes qui ont publié un reportage à candidater.
Oui, donc n'hésitez vraiment pas à candidater. Et on va pouvoir retrouver le travail de combien de photographes ?
Alors, 8 photographes. Et on présentera 8 clichés, 8 tirages de leur reportage. Donc ça fera 64 photos, mais tirées de 8 photos reportages. Pardon.
Donc 8 photos sur un sujet en particulier.
Exactement, exactement. Donc c'est vrai que généralement, toutes les photos n'ont pas été publiées. Souvent, malheureusement, il y a de moins en moins d'espace. Voilà. Mais en tous les cas, on sait très bien que le photographe, le photoreporter, quand il construit son reportage, même si que 2 ou 3 photos sont publiées, il a construit son récit sur beaucoup plus. Donc 8, c'est finalement assez complet pour pouvoir voir le travail et raconter l'histoire. Mmh. Tel que le journaliste a souhaité le faire.
Et j'aimerais bien aussi revenir sur un événement qui a lieu aujourd'hui au Jeu de Paume à Rennes, donc une vente aux enchères. Quel était l'objectif de cet événement ?
Alors, la vente aux enchères, elle est le 12 février.
Ah, oula !
Mais c'est très bien, on peut
s'est
l'annoncer comme
dans
ça.
Moi.
Ouais, excuse. Mais c'est super. C'est le 12 février à 18h30. Mais c'est très bien qu'on en parle un petit peu avant parce qu'on a aussi besoin de faire un petit peu de communication autour du sujet. En fait, c'est l'exposition numéro 3, donc 2019. 5 photoreporters ont donné leur accord pour vendre les tirages qui ont été exposés, donc en l'état. C'est des tirages qui ont été exposés dans le métro ou au Capucin. Et l'idée, c'est de donner une seconde vie à ces photoreportages et aussi, à nouveau, de mettre un coup de projecteur sur le métier et sur le club de la presse de Bretagne, évidemment.
Ok, bon, bah, au rendez-vous
le 12 février avec
alors.
Plaisir.
On a beaucoup parlé d'images du coup pendant cette interview et je me demandais quelle image à vous, mais aussi aux autres autour de cette table, vous a le plus marqué dans l'actualité de 2025.
Ouais. Ouh la colle.
C'est vrai qu'il y en a pas mal.
Au propre comme au figuré l'image.
Ça peut être de tout. Enfin, moi, par exemple, les images de la Gen Z, des manifestations de la Gen Z, m'a beaucoup choquée. Genre, que ce soit un peu dans tous les pays. Je sais pas vous.
Ouais.
Moi, je dirais que c'est... Alors, je suis désolée, mais c'est Martine Parr, parce qu'il est décédé cette année, en 2025, qui a une exposition qui est au FRAC à Rennes et à la Gacilly, qui montrait son travail. Et j'aimais beaucoup ce photographe. Et je le trouvais assez talentueux pour finalement décoder une époque. Donc... ce seraient les images de Martine Parr.
Et vous autres ?
2025, j'ai un trou, mais récemment, l'image qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de René Good, tu sais, avec qui s'est fait tuer par l'ICE aux États-Unis. Oui. On voit sa voiture avec le airbag plein de sang, puis les doudous dans la portière. Elle était assez...
traumatisante. Un peu.
Assez forte.
Bref, pour finir sur cette note-là, je vous conseille du coup d'aller voir cette 6e édition de Report Image. Ouais. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations ?
Sur le site du Club de la Presse, n'hésitez pas, Club de la Presse de Bretagne, je n'ai pas le nom de domaine exactement, mais vous devriez le trouver facilement. Il y a le dossier de candidature, il y a le règlement. Le 12 février, on sera au Jeu de Paume, mais à partir de septembre, exposé sur le barrage de la Rance, l'usine marémotrice de la Rance, puis au Capucin, puis dans le métro Rennais.
Bah merci beaucoup.
Merci à vous
Florence.
De votre invitation.
Merci.
Merci.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
L'Afghan is back pour sa chronique On en agro. À toi l'Afghan.
Et oui, de retour. Quoi de mieux pour se remettre des fêtes de fin d'année que de prendre quelques nouvelles de notre bon vieux tonton un peu controversé. Non, je veux pas de problème avec l'ARCOM, donc j'éviterai d'employer les termes de raciste, misogyne, xénophobe et j'en passe. Pascal Pro vient nous régaler pour ce début d'année. Youpi, youpi. J'ai donc décidé de me mater l'émission d'Europe 1 du jour intitulée Iran, le régime iranien tue et tout le monde se tait avec Pierre Lelouch. Écoutons de quoi parle notre immense journaliste français aux avis toujours objectifs et factuels.
Ces séquences abominables où on voit des répressions très violentes et ces morts sur le sol iranien. Regardez cette séquence, et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, nous allons voir des images qui sont abominables. Voyons là cette séquence, s'il vous plaît. Des jeunes gens qui étaient là et qui ont subi la mort et les répressions. Ils sont dans des... j'ai envie de dire, dans des bâches en plastique. Je pense que vous avez vu ces images hier.
Bah,
Dis donc Pascal, là c'est top, on parle un peu des populations martyrisées, des révoltes qui se font écraser, réprimander. Peut-être que 2026, c'est l'année où Pascal Pro il sera décontenancé devant les violences policières en France. Une chronique sur Sainte-Soline, sur le Soudan, on sait pas. Bon, et à vos côtés Pascal, Pierre Lellouche, ancien député de droite, lui aussi il doit être bien humaniste.
Il a pris en otage un pays magnifique, avec un peuple de grande qualité. Pour Gaza, vous avez eu des manifestations à travers le monde de centaines de milliers de personnes.
On y vient, ok. Non, parce que je me demandais quand le sujet allait venir. Avant de parler Gaza à côté, on peut peut-être être méfiant avec toi, Pierre, quand tu nous dis que le peuple iranien est de qualité, surtout quand on sait que sous Sarkozy, le secrétaire d'État au commerce extérieur est soupçonné d'embaucher une femme de ménage sans papier depuis 2 ans sans la déclarer. En fait, Pierre, il parle comme un acheteur d'esclaves au 17e. Mais il décide d'aborder le sujet de Gaza. Et là, Pascal nous fait sa petite reco du jour, un copain à lui qui fait la matinale sur Europe 1, Laurent Tessier.
Peu de personnalités en France s'expriment. Le présentateur télé Arthur a une nouvelle fois le courage de le faire avec ce message publié sur Instagram vendredi. Où sont-ils les indignés permanents? Où sont les humanitaires? Où sont les campements étudiants? Où est Greta Thunberg? Où est la flottille de la liberté? Et où sont les célébrités si promptes à pleurer sur les tapis rouges, à dédier leur prix aux peuples opprimés? Leur silence n'est pas une absence, c'est un choix. J'ai lu les messages de ces élus et les filles. Certains parlent de régime autoritaire, théocratique. Aucun ne parle d'islamisme, de dictature islamiste, aucun.
Bon, on va pas lui faire la définition de ce que c'est la théocratie ou autre, mais bon, je vais pas développer des heures, on a beaucoup d'autres sujets à traiter, et honnêtement, je préfère rentrer jouer à LOL ce soir plutôt que de devoir sortir une heure d'arguments face à ça. Non, vraiment, il y a un truc qui suffit, le bandeau qui passe sous l'émission pendant que Pascal et les copains débattent sur les gauchistes qui se bougent pas. C'est vraiment en direct, sous leurs propos, des citations de Manon Aubry, invitée sur CNews et Europe 1 le matin même. Est-ce que vous voulez que je vous les lise ?
S'il te plaît, oui, on t'écoute.
Première citation, « C'est un soulagement si le régime iranien tombe, Manon Aubry. » Et « un massacre est en train de se dérouler à huis clos, toujours Manon Aubry. » Enfin, est-ce que vous vous rendez compte ? On comprend mieux pourquoi ils ont l'impression que personne n'en parle. Ils écoutent même pas leurs propres émissions. Enfin, quand même, on veut bien vous trouver des excuses, mais là, t'as pas géré, Pascal. T'as pas révisé le sujet, pas vrai ?
Bah si.
Bah non.
Bah si.
Bah non.
Non.
Bah non. On vous dit non, Pascal.
Bah non, on dit non, Pascal. On arrête là, parce que malgré tes compétences de géopolitologue... ça sert un petit peu à rien, et puis je vais pas te conseiller d'ouvrir Al Jazeera ou Courrier Inter sur lesquels tu te renseignerais probablement pas, mais honnêtement, même sur C-Lab, on en parle depuis quelques semaines de l'Iran, donc viens nous écouter, Pascal, peut-être que tu apprendras quelques petits trucs.
Merci Lavkian, pas à l'abri d'avoir un message de Pascal Pro sur le répondeur, quoique ça m'étonne qu'il écoute C-Lab hein, quand même. Merci Lavkian, est-ce qu'on n'écouterait pas le répondeur, Maud, je te laisse appuyer.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
C-Lab, la radio sauvage.
Bon bah il est vide aujourd'hui hein. Laissez-nous un message vocal. Qu'est-ce que vous avez pensé de la chronique de Lavkian ? On veut savoir. La France veut savoir. 02 30 96 25 35. Faites-nous un retour. Bah oui, sur nos émissions, sur nos interviews. Donnez-nous des idées de sujets, vos coups de cœur, vos coups de gueule, tout ça, tout ça. Et avant qu'on se quitte, je vous rappelle que C-Lab vous propose de gagner une place pour un spectacle du festival Autre Mesure de Rennes, un festival qui célèbre la musique contemporaine, sa diversité et surtout son accessibilité pour toutes et tous. On vous propose donc de gagner une place pour le concert Stimmung du compositeur allemand Stockhausen par l'ensemble Oxymor. C'est à la chapelle du Conservatoire de Rennes le dimanche 25 janvier 2026 à 15h. Pour découvrir ça, il suffit de rentrer le bon mot de passe. Mot de passe, s'il vous plaît.
Si bémol majeur.
Oui, bravo Roman, tu as gagné. Si bémol majeur, c'est le mot de passe. Et pour le rentrer, rendez-vous sur c-lab.fr. Merci Maud pour la technique. Rendez-vous demain, 6h avant minuit, très précise.
Si la radio sauvage.
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.